Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Parlement indonésien et le gouvernement discutent de la coopération en matière de défense avec quatre pays. Immigration affirme que les étrangers qui enfreignent la loi peuvent être sanctionnés par l'annulation du permis de séjour. Ministère de l'Agriculture collabore sur la technologie agricole avec des instituts de recherche en Chine. Rotary propose un fonds perpétuel pour le financement de projets liés aux ressources en eau au Forum mondial de l'eau. Indonésie lance un centre international de recherche sur les algues. Petites entreprises de la République d'Indonésie connaissent une croissance rapide en 2024. Et KLHK souligne l'importance de protéger les écosystèmes lacustres lors du 10e Forum mondial de l'eau. Bonjour, je vais te revoir, les nouvelles en complet. La Commission 1 de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie a tenu une réunion avec le gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense pour entendre des avis concernant la coopération ou les accords dans le domaine de la défense avec les quatre des pays. Le membre de la Commission 3 de la Chambre des représentants T.B. Hasanuddin, au complexe parlementaire de Jakarta, a expliqué mardi que les quatre pays qui seraient les destinataires de la coopération étaient le Brésil, la France, le Cambodge et les Émirats arabes unis. Il a également souligné que la coopération n'était pas un pacte de défense, car ce qui serait établi était lié à une coopération dans la production ou l'industrie de défense. Selon Hasanuddin, les quatre pays ont la capacité de coopérer avec l'industrie de défense indonésienne. Dans ce cas, selon lui, la Commission 1 du Parlement indonésien a un rôle dans la ratification de la coopération avec les quatre pays lors de la prochaine réunion. Le Parlement indonésien discutera du contenu du projet de coopération pour ratification. Il a déclaré qu'auparavant, L'Indonésie collaborait depuis longtemps avec un certain nombre de pays, dont le Brésil pour l'achat d'avions sous Partunico. Cependant, avec un cadre juridique plus clair, on espère que la coopération sera meilleure. Entre-temps, la coopération intérieure n'était établie que par un accord entre les ministres de la Défense. La Direction générale de l'immigration du ministère indonésien du droit et des droits de l'homme a souligné que les étrangers qui enfreignent les lois et réglementations peuvent être soumis à des sanctions administratives en matière d'immigration sous la forme de restrictions, de modifications et d'annulations de permis de séjour. Cette confirmation a été exprimée par le directeur de la surveillance et de l'application de l'immigration, Safar Mohamed Godam, dans une déclaration écrite reçue à Jakarta jeudi 24 mai. Godam a déclaré que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République d'Indonésie doit avoir un permis de séjour d'immigration toujours valide. Il a dit que l'une des conditions importantes pour demander un permis de séjour pour les étrangers est qu'ils doivent avoir une bonne conduite. Dans ce cas, l'étranger n'a pas violé les lois et règlements. Par ailleurs, si un étranger purge une peine de prison ou une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel, il n'a légalement pas de permis de séjour. Il a ajouté que les prisonniers étrangers qui bénéficient de la politique de détention externe sont sous la supervision et les soins de l'établissement pénitentiaire en tant qu'agence autorisée pendant que le processus judiciaire est en cours. Le ministère indonésien de l'Agriculture collabore avec l'Institut national de recherche sur les riz de Chine, le plus grand institut de recherche sur les riz en Chine, pour augmenter la productivité agricole afin d'assurer la disponibilité alimentaire en Indonésie. Le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, à Hangzhou, en Chine, a expliqué mercredi 22 mai que l'objectif principal de cette collaboration est d'augmenter la production et la productivité en garantissant une augmentation des rendements des cultures grâce aux dernières technologies et innovations. En dehors de cela, cette collaboration vise également à augmenter l'indice de plantation en améliorant les modèles de plantation, le rendant ainsi plus efficace et durable. Le ministre a ajouté qu'un autre objectif principal de la coopération est d'essayer de réduire les coûts de production de 40 à 60% grâce à de nouveaux équipements agricoles, technologies et méthodes de machines. La visite du travail du ministre de l'Agriculture à l'Institut national chinois de recherche sur le riz marque la première étape de la coopération stratégique en matière de technologie agricole entre l'Indonésie et la Chine. Le gouvernement indonésien propose un système de fonds de dotation pour financer des projets liés aux ressources en eau. Le directeur général du financement des infrastructures du ministère des Travaux publics et du Logement public, Heri Trisaputra Zuna, a révélé que cette proposition comprenait l'initiation du gouvernement à proposer un centre d'excellence au 10e Forum mondial de l'eau 2024. Heri, lors de la conférence de presse du 10e Forum mondial de l'eau 2024, le Forum mondial de l'eau 2024 à Badung, Bali, a expliqué mercredi 22 mai que le fonds de dotation est destiné à couvrir les coûts d'entretien des infrastructures de ressources en eau et à garantir que la conservation en amont puisse être bien maintenue. Selon lui, des fonds de dotation sont nécessaires pour que le développement des projets se déroule de manière plus cohérente et durable. Il ajoutait que les fonds obtenus doivent être investis. Une partie des résultats des investissements étant utilisés pour construire des actifs d'infrastructure. Eri a en outre déclaré que les fonds de dotation en eau proviendront de plusieurs sources, à savoir de fonds gouvernementaux et de sources externes, tels que les frais des services de gestion des ressources en eau. Le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, en collaboration avec l'Agence nationale de recherche et d'innovation, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et le ministère de la planification du développement national, BAPNAS, a lancé le programme tropical international Centre de recherche sur les algues, ou ITSRC, à Badung, Bali, mercredi. Le ministre coordonnateur des Affaires maritimes et de la pêche, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que l'ITSRC marquait une étape importante dans la collaboration mondiale pour la recherche, le développement et l'intégration en amont et en aval de l'industrie des algues. Ce centre de recherche fera office de centre d'études, de centre de recherche scientifique, de transfert de technologies et de renforcement des capacités dans la filière algues. Le gouvernement a mené diverses recherches et activités dans le développement des algues. Plusieurs universités et institutions ont également mené des études sur le potentiel, les problèmes et les défis liés aux algues. Ainsi, le Centre de recherche sur les algues tropicales, qui a été créé, a impliqué des éléments gouvernementaux, des experts mondiaux des algues, des praticiens et associations nationales des algues, des universités nationales et étrangères, notamment l'Inde, la Chine, le Japon, le Canada, la Corée, ainsi que des partenaires de développement tels que le monde, Banque, FAO, UNIDO, Pacte mondial des Nations Unies, CLKL, CCS Energy. Le gouvernement veut encourager le développement de l'industrie des algues en aval, comme le lancement d'un projet pilote de culture d'algues à grande échelle dans la baie d'Ecas, à l'est de Lombok. Certified Practicing Accountant, CPA, Australie a déclaré que les petites entreprises en Indonésie connaîtront une croissance rapide en 2024, soit de 84%, ce qui indique le niveau élevé de confiance des acteurs commerciaux dans le climat commercial et économique du pays. Le président du conseil consultatif de CPA Australia pour l'Indonésie, Adi Budiarso Jakarta, a déclaré mercredi à Jakarta que cette augmentation rapide était en hausse par rapport à l'année précédente, qui n'était que de 80%, et s'était produite parce que les petites entreprises étaient le secteur qui profitait le plus des avancées technologiques, comme l'utilisation des réseaux sociaux et des applications de boutiques en ligne. Cela peut être constaté chez 69% des acteurs économiques générant plus de 10% de leurs revenus grâce aux ventes en ligne. Il a expliqué que les petites entreprises indonésiennes seront le secteur d'activité qui connaîtra la plus forte croissance en 2023. Il a noté que 8 acteurs des petites entreprises sur 10 ont exprimé une croissance significative de leur entreprise par rapport à l'année précédente, avec un pourcentage bien supérieur à la moyenne de l'enquête de 60%. Il a ajouté que la création d'emplois dans ce secteur restera également forte, à savoir que 52% des entreprises devraient augmenter le nombre de leurs employés d'ici 2024. Ce chiffre est bien supérieur aux 37% de nouveaux emplois créés par les petites entreprises en 2023, comme l'indique le rapport. ainsi que 32% en 2022. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, a souligné l'importance du maintien des écosystèmes lacustres compte tenu de leur rôle dans l'écosystème, notamment en fournissant des réserves d'eau douce à la surface de la Terre lors de l'un des panels du 10e Forum mondial de l'eau à Bali. Selon les informations reçues mercredi à Jakarta, la ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, dans un discours clé lu par le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alu Dohong, a déclaré que le 10e Forum mondial de l'eau était un moment important pour partager des réflexions et soulever des questions, des enjeux importants dans les forêts visant à sauver l'écosystème, car les lacs sont vulnérables au stress des conditions environnantes. Siti Nurbaya a rappelé que les lacs jouent également un rôle important dans le cycle alimentaire, la purification de l'eau, le climat, la biodiversité, ainsi que dans le soutien des activités récréatives et traditionnelles. Siti a souligné l'importance de maintenir des écosystèmes lacustres sains pour surmonter la menace des catastrophes liées à l'eau, les défis environnementaux mondiaux tels que le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité, en plus de soutenir la réalisation de l'agenda des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en particulier l'objectif 6 concernant la garantie de la disponibilité et de la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Bon, je vais tarcer tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le cas diplomatique, dont le titre est « L'Indonésie fait la promotion Bali et Beyond en Australie et en Nouvelle-Zélande ». Le ministère indonésien de tourisme et de commerce créatif a mené une mission de vente en Australie et en Nouvelle-Zélande dans le but de promouvoir la destination Bali et Beyond. La mission de banque en Australie et en Nouvelle-Zélande s'est déroulée à Sydney, Christchurch et Auckland du 16 au 22 mai 2024 en collaboration avec l'Alliance indonésienne pour la promotion du tourisme APPI, Garuda Indonesia et Air New Zealand. Le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré vendredi 17 mai que cette mission de vente est une forme de cohérence de l'Indonésie dans la promotion de Bali and Beyond, y compris les 5 destinations super prioritaires qui ont également des paysages enchanteurs, authentiques et des attractions uniques, tant en termes de paysages que de culture environnante. L'agent en marketing du ministère du Tourisme et de l'économie créative, Nimade Ayu Martini, a déclaré que Bali est l'une des destinations préférées des Australiens. Par conséquent, des efforts promotionnels pour les 5 destinations touristiques prioritaires sont menés afin de susciter l'intérêt du peuple australien pour visiter des destinations autour de Bali. Madi Ayu Martini espère également que ces touristes étrangers pourront prolonger leur séjour et augmenter leurs dépenses en Indonésie. Pendant ce temps, pour les touristes néo-zélandais, a-t-elle déclaré, le nombre de visites en Indonésie avant la pandémie a toujours montré une tendance positive. En 2023, environ 116 603 touristes néo-zélandais ont visité l'Indonésie. Selon Nimade Ayu Martini, le vol direct d'Air New Zealand ANZ vers Denpasar joue un rôle important dans cette réalisation. Et le ministère du Tourisme et de l'économie créative encourage ANZ à augmenter sa fréquence et à ouvrir de nouvelles routes vers d'autres villes d'Indonésie. Pendant ce temps, le directeur du marketing touristique pour la région Asie-Pacifique, le ministère du Tourisme, R. Wisnu Sindu Trisno, a déclaré que 16 acteurs de l'industrie touristique indonésienne participeraient à cette mission de vente et qu'environ 70 industries touristiques australiennes et néo-zélandaises assisteraient aux événements dans chaque ville. Les activités comprennent des réunions B2B, des présentations de produits et des mises à jour touristiques ainsi que la table top. Air Wisnu Sindu Trisno a également apprécié que Garuda Indonesia et Air New Zealand se joignent à la mission de vente et espère qu'ils pourront fournir aux participants plus d'informations sur la connectivité entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande vers l'Indonésie. C'est Jurita, c'était l'Arche Diplomatique pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la reconnexion du membre corporel et succès pour la première fois au monde. Le 23 mai 1962, une équipe de chirurgiens de l'hôpital général de Massachusetts à Boston, aux États-Unis, a réussi à reconnecter un membre corporel pour la première fois au monde. Une équipe de chirurgiens a refixé la main droite de l'adolescence de 12 ans. Retnoles a subi une main coupée lorsqu'il a été éjecté d'un train de marchandises à Somerville, Massachusetts. D'autres informations? Et sur l'événement du 23 mai 2000, la Journée mondiale de la tortue a été célébrée pour la première fois. La Journée mondiale de la tortue est célébrée chaque 23 mai. La Journée mondiale de la tortue a été initiée pour la première fois par l'organisation non gouvernementale American Tortoise Rescue en 1990 et célébrée pour la première fois en 2000. Cette commémoration vise à sensibiliser à l'importance de la conservation des tortues, parce que la vie de plusieurs espèces de tortues est au bord de l'extinction en raison des dangers des facteurs environnementaux, de la chasse et de l'éclosion de leurs œufs, en plus de promouvoir les efforts visant à protéger leur habitat et à assurer leur survie. La Journée mondiale de la tortue est célébrée de diverses manières dans le monde entier à partir des mouvements sociaux, de la découverte de la vie des tortues jusqu'à la fabrication d'objets artisanaux en forme de tortue. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 mai 2016. Les bombes de l'État islamique ont tué des dizaines de personnes en Syrie et au Yémen. Le groupe se faisant appeler État islamique ou ISIS a mené 8 attentats à la bombe dans des villes côtières de Syrie et un attentat dans la ville d'Aden au Yémen. L'attaque menée par les troupes d'État islamique en Syrie a tué au moins 184 personnes et en a blessé 200 autres, tandis que l'attaque au Yémen a tué 45 personnes. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali.
Mama. jaga selalu hatimu.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Environnement et des Forêts a souligné l'importance du maintien des écosystèmes lacustres lors du 10e Forum mondial de l'eau. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a souligné l'importance de maintenir les écosystèmes lacustres comme tenu de leur rôle dans les écosystèmes, notamment en tant que réserve d'approvisionnement en eau douce à la surface de la Terre lors d'un des panels du 10e Forum mondial de l'eau à Bali. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, dans un discours clé lu par le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts à Ludohong, mardi 21 mai 2024, a déclaré que le 10e Forum mondial de l'eau était un moment important pour partager des réflexions et sensibiliser des enjeux importants dans les efforts visant à sauver des écosystèmes importants tels que les lacs qui sont vulnérables au stress et des conditions environnantes. Elle a rappelé que les lacs jouent également un rôle important dans le cycle alimentaire, la purification de l'eau, le climat, la biodiversité ainsi que dans le soutien des activités récréatives et traditionnelles. Siti a souligné l'importance de maintenir la santé des écosystèmes lacustres pour surmonter la menace des catastrophes liées à l'eau, les défis environnementaux mondiaux tels que le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité. En plus de soutenir la réalisation de l'agenda des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en particulier le 6e objectif concernant la garantie de la disponibilité et de la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Le 6e objectif, selon elle, n'est pas encore en bonne voie pour atteindre l'objectif en 2030 et le volume des lacs d'eau douce aurait également diminué de moitié. Avec plus de la moitié des plus grands lacs du monde connaissant un rétrécissement dû aux pressions énormes à cause de l'utilisation excessive de l'eau et des bassins, ainsi que de la crise climatique. Pour relever ce défi, de nombreux pays, dont l'Indonésie, ont lancé depuis 2009 des mouvements nationaux pour sauver les écosystèmes lacustres, suivis par l'élaboration de politiques, de lignes directrices et de plans d'action pour sauver les lacs prioritaires. À cette occasion, la ministre Siti a exprimé son appréciation pour l'adoption de la résolution de l'UNEA 5/4 sur la gestion durable des lacs le 2 mars 2022, qui constitue une étape importante dans la gestion mondiale des lacs. Elle a souligné que la gestion durable des lacs doit faire partie intégrante de l'équilibre entre la protection de l'environnement et le développement économique. Elle a également invité toutes les parties à développer des engagements concrets dans des actions collaboratives pour la gestion durable des lacs en fixant des objectifs et des indicateurs convenus pour suivre et évaluer les progrès dans la mise en œuvre des actions collaboratives. Serge Ritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Jangan jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, le deuxième forum mondial de l'eau a officiellement débuté avec la cérémonie Segahakikti à la plage Suksuf by the Wave, dans la région de Kurakura à Bali le 18 mai. La cérémonie Segahakikti est considérée comme un acte louable visant à soigner et purifier la mer de manière abstraite. La cérémonie vise à demander la grâce pour que la mer reste propre et durable, afin que les humains vivent dans la prospérité et le bonheur. La cérémonie Segahakikti elle-même commence par une procession de croûtes avec la performance des danses sacrées comme moyen d'offrande. Ces danses sont Topeng Panasar, Sang Hyang Jaran, Sang Hyang Dedari, Baris Cekuak, Rejang Putri Maya et la danse Sidi Karya Mask. Dans cette édition, nous vous présentons l'une de ces danses, à savoir la danse Sang Hyang Dedari. Sejurita, Sang Hyang Dedari est une danse sacrée censée repousser le mal. En général, le sens de repousser le mal est également interprété comme dissipant les auras négatives de pénétrer le village. Dans le spectacle, les enfants danseurs encore pour doivent accomplir une série de rituels spéciaux afin que leur corps puisse être possédé par l'Esprit de Dieu. Après cela, les danseurs perdent connaissance. Oui, il se réveillant et dansant immédiatement les yeux fermés tout au long du spectacle, sur l'accompagnement de la musique gamelan balinaise. On pense que Sangyang de Dari est une danse qui invite les dieux et déesses du ciel à descendre avec le don de la vie sur terre. À l'origine, la danse est exécutée chaque année à Opura, au temple Andu Balinais de Kayangan Tiga, dans le village de Celup, Gianyar, pour invoquer la sécurité de la communauté locale. Cependant, Sangyang de Dari est désormais régulièrement présenté comme faisant partie d'une attraction touristique dans plusieurs endroits de Bali. C'est Zurita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la commémoration du Tri Suci Vesak. Le 23 mai 2024, les bouddhistes célèbrent le jour du Tri Suci Vesak. Tri Suci Vesak rappelle aux bouddhistes trois événements importants, à savoir la naissance du prince Siddhartha, le prince Siddhartha atteignant la grande illumination et devenant Bouddha, et Gautama Bouddha Parinibbana. Rapportant du site officiel de la Direction générale de l'orientation de la communauté bouddhiste, le ministère de la Religion de la République d'Indonésie, pour accueillir le Vesak, le ministère de la Religion a fixé un thème pour la commémoration de la journée Tri Suci Vesak, à savoir conscience de la diversité des modes de vie nobles, harmonieux et heureux. Le point culminant de la célébration de Vesak tenu le 23 mai 2024 au temple de Borobudur dans le centre de Java. Des milliers de bouddhistes d'Indonésie et de plusieurs pays asiatiques se sont rassemblés au temple de Borobudur. L'événement culminant du Vesak s'est ouvert avec le carnaval Vesak du temple Mendut au temple Borobudur, la commémoration des moments du Vesak, la pradaksina du temple Borobudur et la libération des lanternes. La célébration de Vesak au temple de Borobudur est toujours animée par le lancement de lanternes. Cet événement est toujours accueilli avec enthousiasme par le public. C'est devenu une attraction pour les touristes locaux et étrangers. Les lanternes volantes lors de la fête des lanternes sont le symbole que les prières prononcées seront bientôt exaucées. Après la libération des lanternes le 23 mai, elle sera suivie d'une marche de méditation jusqu'au marché de Medang autour du temple de Borobudur, qui se tiendra du 24 au 26 mai 2024. Le sommet de la célébration de Vesak est ouvert au public afin que les touristes puissent assister à cette célébration. Mais il existe plusieurs événements sacrés, de sorte que le parc touristique du temple de Borobudur apporte également ajustement aux visites touristiques. Les touristes réguliers qui viennent ce jour-là sont toujours servis à partir de 6h30 heure locale. Les touristes peuvent également visiter la structure du temple de Borobudur, qui est ouverte jusqu'à la session 4 ou jusqu'à 11h30 heure locale. L'entrée pour les personnes souhaitant participer au sommet de Vesak 2024 reste par la porte 1 ou l'entrée touristique. Pendant ce temps, l'accès à la sortie est dirigé vers la porte 6 du parc touristique du temple Borobudur. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt!
Ajal menjemputku, takkan pernah ada sesalku untuk menunggumu. Aku harus tetap menunggu hingga nanti aku berbaring sampai mati aku
akan tetap menunggumu. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang, ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cintaku kepada dirimu. Ku ingin kau tahu tentang perasaanku, ku ingin kau tahu besar cinta padamu. Ingin ku berikan sisa waktuku dan sisa umurku sampai mati. Aku harus tetap menunggu sampai mati, aku akan tetap menunggumu. Ingin ku gapai bulan dan ku petik bintang, ingin ku berikan semua hanya untukmu, agar kau tahu besarnya cinta.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et cette fois, nous vous présentons une chanson de Christine Panjaitan. Chers amis, Christine Panjaitan, son nom s'est fait connaître dans les années 1980 grâce à ses chansons à succès telles que Katakan Sejujurnya. Cette chanson figure sur l'album du même titre, Katakan Sejujurnya, sorti en 1987. Cette chanson est l'une des chansons nostalgiques populaires en Indonésie. Cette chanson créée par Rinto Harahap raconte l'histoire d'un couple d'amoureux qui s'aiment mais qui finissent par se séparer à cause de leurs différences. En 2014, le groupe Armada a réédité cette chanson avec une nouvelle version en guise d'appréciation pour l'auteur-compositeur Rinto Harahap. Bonjour, Jeter, voici la chanson de Christine Panjaitan intitulée Katakan Sejujurnya. Bonne écoute.
Pernah ku rasakan artinya rindu.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.